Hugues Dollier, bonjour.
Oui, bonjour Sandra, et puis bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'avent. On va se préparer à la nativité, hein, voilà, même si l'Europe veut supprimer le mot de Noël en disant qu'il faut plus qu'on prononce le mot de Noël en Europe, nous, on va quand même continuer de parler de la nativité, que le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Donc pour nous, les chrétiens, ça continue. Nous, on reste fidèle à notre calendrier liturgique et on va continuer donc notre parcours donc de la Sainte Famille. Alors, donc on avait vu hein, au mois d'octobre, on avait bien représenté le couple, hein, Joseph, un jeune homme 25, 30 ans à peu près, hein, Marie, une jeune fille de 15 ans, qui se sont donc fiancés et on avait bien expliqué que on avait affaire à un vrai mariage, un vrai couple, une vraie famille. Hein. Ça, c'était très important. De rappeler ça, Joseph n'est pas là pour juste donner à manger à Marie, à Jésus, il est vraiment le mari de la Sainte Vierge. Hein, ça, c'est très important. Voilà, et puis, donc, on avait un peu parlé des relations entre Marie et Joseph, puisque Marie a été déclarée toujours vierge, et donc, il n'y a pas eu d'union intime entre Joseph et Marie. Ça, c'était le mois d'octobre, et au mois de novembre, on avait parlé des textes, et en particulier les deux, ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance. Donc Saint Matthieu qui veut montrer aux Juifs, puisque son public ce sont les Juifs, que Jésus est le descendant de David par Joseph. Hein, voilà. Celui qui était promis le Messie. Donc ça, c'est l'évangile selon Saint Matthieu. En revanche, Saint Luc, lui, cherche plutôt à démontrer, il s'adresse plus aux païens, il démontre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vrai Dieu et vrai homme, et donc il est né en fait de la Vierge Marie, qui était vierge. Voilà, donc c'est un miracle. Donc c'est pour ça que il est vrai Dieu et vrai homme, il n'est pas l'enfant de Joseph. Donc Matthieu, c'est un peu l'évangile de Joseph, Luc, c'est plus l'évangile de la Vierge Marie. Voilà, puis on avait parlé aussi du protoévangile de Jacques et des révélations. Alors, voilà, ça c'était juste pour faire un bref rappel de là où nous en sommes. Et on rentre tout de suite dans le thème d'aujourd'hui, qui est donc la nativité. Alors, vous allez me dire, c'est un peu tôt, hein, on est au début décembre, on est encore dans l'Avent, mais après, nous nous retrouverons début janvier. Et donc, je voulais en profiter pour qu'avec Marie, Joseph et Jésus, enfin Marie-Joseph, parce que Jésus n'est pas encore né, qu'on aille donc faire ce chemin de l'Avent avec eux. Alors, juste pour la nativité, je rappelle brièvement les faits. L'empereur Auguste décide de faire un recensement de toute la terre. Il veut connaître le nombre de sujets qu'il gouverne. Et comme Joseph est de la maison de David, il doit se rendre à Bethléem, tout au sud. Alors, là, je l'explique parce que enfin, tout le monde ne le sait pas forcément, de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'habite pas au bon endroit, notre ami Joseph. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, donc au temple, à Jérusalem, on est au sud hein, de la Terre Sainte, et donc là, on a la Judée. Et donc, on a ici la tribu de Lévi, donc les prêtres qui sont là. Et alors, il y a eu une dispute, et notamment avec les descendants de David. Hein, vous avez les descendants d'Aaron, les descendants de David. Et alors, il se trouve qu'il y en a beaucoup qui se sont exilés, c'est suite au retour de l'Exode à Babylone. Il y en a beaucoup qui se sont exilés, qui sont allés se mettre tout là-haut. Ils se sont mis en Galilée, donc au-dessus de la Samarie. Donc, vous avez en bas, vous avez la Judée avec Jérusalem. Au milieu, vous avez la Samarie avec les montagnes, c'est là où il y a sa fameuse rencontre avec la Samaritaine. Et puis au-dessus de la Samarie, vous avez la Galilée qui est au nord. Hein. Et c'est là où il y a le village de Nazareth. Et c'est là où était Joseph. Et donc, c'est parce que ses ancêtres, en fait, s'étaient exilés. Voilà. Et là, c'est intéressant parce que l'une des traductions du mot Nazareth, ça signifie le rejeton. C'est-à-dire que ça nous fait penser évidemment à cette parole de l'Ancien Testament. Hein. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Voilà. Donc certains disent, ben voilà, Nazareth, c'est le rejeton, le fameux rejeton qui de là est arrivé le salut. Hein. Voilà, mais Nazareth a trois ou quatre traductions possibles, hein, donc on n'est pas obligé de se fixer sur celle-là. Alors en gros, donc pour aller, donc on doit se faire enregistrer là dans ses origines, et donc étant donné qu'il est Joseph et donc descendant de David, ses origines c'est au sud. Alors, il faut rappeler que Bethléem, c'est la ville du roi David. Hein. C'est pas par hasard, cette petite ville-là. Elle n'était pas grosse à l'époque, mais enfin, c'était quand même la ville de David. Alors, c'est à 7 km de Jérusalem, donc c'est pas très loin. Par contre, c'est assez haut, c'est à 750 mètres d'altitude, donc il faut quand même grimper un peu pour y arriver. Alors, pour faire ce voyage, c'est un voyage de 150 km. Donc ça prend 3-4 jours hein, pour le faire. Alors quand on regarde les films, hein, sur la Sainte Famille, sur Jésus, alors là ils nous font un voyage terrible. Alors déjà ils font passer Marie et Joseph par la Samarie, par les montagnes, etc. Alors c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Après ils ajoutent des tempêtes de neige parce que comme c'est le 25 décembre. Donc, en fait, on ne sait pas du tout si c'était l'hiver. On pense plutôt que c'était l'été parce que les bergers étaient dans les champs à s'occuper des moutons. Donc, les moutons, en plein hiver, ils sont pas. Et les bergers sont pas en train de dormir dans les champs. Ils sont plutôt. On rentre les bêtes à la bergerie. Donc, c'est plutôt l'été que l'hiver. Mais bon. Et puis, on ne passe pas du tout par la Samarie. Hein. La Samarie, c'est un endroit par lequel on ne passe pas. On passe soit par la côte est, soit par la côte ouest. On ne va pas monter la montagne inutilement. Et puis on n'est pas seul, hein, on part en caravane, hein, notamment parce que le soir, il faut faire le camp, les gens dorment à la belle étoile souvent, donc on installe un camp et puis on repart le jour suivant. Hein, voilà. Donc ce n'est pas exactement comme dans les films, hein, mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà, donc c'est 3-4 jours de marche. Simplement, Marie est pas loin de l'accouchement, donc ce n'est pas très confortable pour Marie. Voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est. Il ne faut pas essayer de se dire, il faut qu'on en fasse quelque chose de, il faut qu'on en fasse quelque chose de terriblement terrible, parce que ça, comme ça donne, ça a plus de valeur, hein. C'est toujours un peu les représentations qu'on se fait. Voilà. Alors après, donc ils arrivent, donc bon, pour Marie c'est quand même pénible, hein, vu son état, et donc ils arrivent proche de Bethléem, et là on nous dit que ils vont dans une grotte, une étable pour accoucher. Là, Marie va accoucher dans une étable. Alors là, il y a deux théories, bon comme ça je vous les donne, hein, c'est les deux théories. C'est pas très grave, c'est un détail, mais enfin je vous le donne parce que c'est. C'est sorti comme ça. Il y a la théorie de la grotte et la théorie de la salle commune. C'est-à-dire que la grotte avec l'âne et le bœuf. Alors l'âne et le bœuf, ça vient de, je crois, de Michée. Bon, c'est les animaux qui sont là, donc on a dit qu'ils étaient là. Donc il y a pas de place pour eux à l'hôtel, donc ils vont dans une grotte. Ça, c'est une explication classique. Alors l'autre explication. C'est non, c'est de se dire qu'ils ont de la famille à Bethléem, parce que ce sont leurs cousins, etc., ils sont en famille. Et donc, en réalité, ce n'est pas une auberge, ce n'est pas un hôtel dans lequel ils vont, mais ils vont dans leur famille. Et là, dans les maisons à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la salle commune, c'est-à-dire que c'est une grande pièce où les gens dorment. Moi, j'ai vécu plusieurs années au Maroc. Donc, il y a des grands salons, quand on va au Maroc, il y a des grands salons marocains. Et les gens en fait dorment sur les banquettes du salon. Ce sont les invités parce que ben voilà on accueille, on a un pays d'accueil. Eh bien si quelqu'un est de passage, eh bien on le fait dormir sur le canapé. Voilà, on enlève les coussins et ça fait un lit quoi. Voilà. Alors on peut penser que la deuxième théorie, c'est que en fait il n'y avait pas de place dans la salle commune. C'est-à-dire on ne va pas mettre une jeune accouchée, elle va pas accoucher en plein milieu du salon, quoi. Voilà. Donc, pour ne pas accoucher au milieu du salon, elle va se retirer dans l'étable qui se trouve juste derrière la maison. Voilà, où là, il y aura une mangeoire. Et donc, c'est un peu séparé de la maison. Bon, c'est une autre explication qui est également valable. Hein, voilà. Mais bon, si on aime bien les grottes au fond de la montagne, c'est bien aussi. Voilà. C'est pas très grave, hein, ça. Voilà, et puis alors la grosse question, c'est est-ce que Marie a accouché dans la douleur ou sans douleur? Alors si on regarde ces films, j'avais regardé les films protestants, alors là, Marie hurle de douleur pour la rendre bien comme nous, ce qui me dérange pas en tant que tel, mais saint Thomas d'Aquin s'est creusé la tête dans sa somme théologique, alors j'ai plus le... Je crois que c'est la question 53, mais je ne suis pas certain, vous rechercherez dans la somme. Et donc saint Thomas d'Aquin, après ses nombreuses études, en a conclu que Marie avait bénéficié d'un privilège, et donc elle accouche sans douleur. Mais alors là, attention, attention, et là saint Thomas d'Aquin est clair là-dessus, il dit la première chose à laquelle on pense, c'est évidemment, comme elle n'a pas de péché, évidemment, elle ne va pas subir les conséquences du péché, qui sont la douleur de l'enfantement et la dureté du travail. D'accord? Et alors là, il faut faire attention parce qu'on fait, on fait des, on fait des choses, on dit des choses fausses parce que sinon, ça veut dire, mais oui, comme elle ressent pas la douleur, c'est normal, elle n'a pas de péché. Et la douleur est arrivée avec le péché. Mais Marie, je peux vous dire qu'au pied de la croix, elle n'est pas exempte de douleur, sous les soi-disant qu'elle a pas de péché. Et Jésus, qui est Dieu, quand il est flagellé et couronné d'épines, voilà, il souffre et il souffre aussi de quand son ami Lazare meurt, etc. Donc c'est pas, il faut pas en faire de Marie et de Jésus des gens, ah oui, soi-disant, ils n'ont pas de péché, donc en fait, ils n'ont pas notre condition humaine et eux, ça passe comme ça tout seul, voilà. Donc voilà. Néanmoins, saint Thomas conclut pour diverses raisons, enfin, pas rentrer dans le détail, que sans doute Marie n'a pas subi les douleurs de l'enfantement par un privilège. Voilà, simplement. Voilà. Alors, la date du 25 décembre a été fixée au 4e siècle pour dire que, en fait, ça correspond au solstice d'hiver, hein, c'est-à-dire que c'est une fête païenne. Chaque pays avait un peu sa date, enfin chaque continent avait un peu sa date. Il y en a qui l'avaient mis au 6 janvier, d'autres qui l'avaient mis au mois de mars, enfin, etc. Donc à un moment donné, on a dit, bon, il faut quand même qu'on trouve une date pour Noël. On va définir que la naissance, la nativité, ça sera le 25 décembre. Comme ça correspond au début des jours qui rallongent, c'est-à-dire c'est la lumière qui arrive, c'est ça la symbolique. Voilà. Donc la fête païenne de la lumière, on l'a transformée en une fête chrétienne, voilà. Hein, donc tout simplement, hein, c'est fait comme ça. Voilà, et la date est pas très bonne. Donc là, on n'est pas en 2021 après Jésus-Christ, parce que je pense qu'on est plutôt en 2024. En gros, Jésus est né 3 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Si vous arrivez à suivre, hein, on n'est pas très très sûr. Moi, je pense qu'actuellement, vu Hérode, etc., vu les textes, les historiens disent que à peu près, on a une erreur de 3 ans dans le calendrier. Bon, enfin, c'est pas très grave. Alors, ce que je veux dire par là, c'est, et pourquoi c'est important, enfin, ce que je suis en train de dire là, quand je dis c'est pas très grave, c'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est que c'est la naissance de Jésus, qu'il soit né il y a 2000 ou 2000, enfin, 2021, 2023 ans, ça ne change pas notre vie de tous les jours. Simplement, il y a pas mal de gens qui essayent de prendre les évangiles de l'enfance pour dire, ah mais voyez, c'est faux, les chrétiens, ils ont inventé un truc, ça tient pas la route, c'est pas, ils ont dit que c'était le 25 décembre, c'est complètement faux parce que c'est l'été, parce que les bergers sont dans les prés, donc vous voyez que l'évangile, c'est faux. Mais c'est pas le problème, je veux dire, qu'il soit né en été, en hiver, qu'est-ce que ça change, hein? Là, ce qui est important, c'est savoir ce que Jésus est fils de Dieu. Voilà. Et donc, en fait, on va s'attacher à des petits détails ou même. Quand on prend la généalogie, soit en Matthieu, soit en Luc, il y a quelques erreurs parce que il y avait des femmes prostituées ou des hommes, mais je crois que c'est plutôt des femmes là, qui étaient de mauvaise vie. Bon, pour pas faire scandale, Matthieu a décidé de les enlever. Bon, voilà, et comme ça, on n'en parle plus et on a quelque chose de plus propre et on évite. Voilà. Alors que Luc, lui, ça l'a pas dérangé. Il a dit, bah. Jésus est venu pour les pécheurs, on va les laisser dans la généalogie, c'est pas grave. Voilà, donc bon, mais c'est pas hyper hyper précis. Ce que je vous disais le mois dernier, c'est que les évangiles de l'enfance sont un style de midrash, c'est-à-dire que c'est comme le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, ça vous allez bien comprendre. Dieu fait le monde en 7 jours. Alors, si vous dites, ah oui, ça a été fait en 7 jours, ben vous dites, c'est complètement faux, parce que le monde, il n'a pas été fait en 7 jours, il a été fait en des millions d'années. Donc, la Bible est fausse. Sauf que c'est une image qui explique qu'il y a eu un commencement. Voilà. Et 2000 ans plus tard, enfin pas quoi après, hein, non, pas 2000 ans plus tard, ça a pas été, ça a été écrit avant. Donc la Genèse a été écrite assez tard, pendant l'exil. Donc je dirais 4000 ans plus tard, il y a un scientifique qui s'appelle pas Einstein, ni rien du tout, c'est ni même un Américain, c'est un Belge, le chanoine Lemaître. Hein, ce brave chanoine a dit, mais il y a peut-être eu un Big Bang, et donc lui c'est un physicien, et là, il a avancé la théorie du Big Bang. Et 4000 ans plus tard, on se rend compte que finalement, ce qui est écrit dans la Genèse, qui fait rigoler tout le monde, que Dieu, il a d'abord fait de la terre, le ciel, la lune, les astres, les animaux, etc., et puis l'homme est arrivé après, et ben en fait, c'est parfaitement exact, c'est bien exactement comme ça que ça s'est passé. Il a fallu attendre 4000 ans pour se rendre compte que la Genèse était exacte. Eh bien, c'est pareil, si vous voulez, sur la naissance de Jésus, c'est de type Midrash. Donc, Luc a raconté ça, peut-être, l'événement, il a peut-être raconté à peu près 50 ans après que c'est eu lieu. Ça lui a été raconté peut-être par Marie, mais c'est peut-être Saint Jean qui l'a, c'est peut-être Marie qui l'a raconté à Saint Jean, Saint Jean qui l'a raconté à Luc. Luc l'a mis sur le papier, et il y a certaines inexactitudes. Par exemple, l'histoire des mages qui arrivent, avec la circoncision, les mages qui arrivent dans la grotte, c'est évident que Marie et Joseph ne sont pas restés bloqués dans la grotte pendant 2 ans parce que Hérode, lui, a tué tous les enfants qui avaient moins de 2 ans, donc à peu près pour avoir la date, et ils ne sont pas restés entre l'âne et le bœuf pendant 2 ans. Donc voilà, et les mages, en fait, ne sont pas allés dans une grotte, ils sont allés dans une maison. Voilà, donc là, il y a un problème chronologique. On ne peut pas avoir tout, la circoncision, la présentation de l'enfant Jésus au temple, la visite des mages, tout ça qui se retrouve en même temps. Voilà, donc il faut pas, je dirais, couper les cheveux en quatre sur la partie historique et précision chronologique. Le message de la nativité, le message des Écritures, c'est pas ça. C'est il faut trouver le sens de la crèche. C'est pour ça que je dis... Je dis aux auditeurs, si on veut s'occuper de la nativité, eh ben, on peut aller lire Valtorta pour savoir si la grotte avait été éclairée par les anges, pas éclairée, si c'était sombre ou si c'était clair. Bon. Mais il faudrait qu'on sorte de ces détails-là pour aller vraiment un peu dans le sens de la nativité, de comprendre cette pauvreté, vous voyez, de bien comprendre que Jésus est né à l'écart, voilà, à l'écart, il n'est pas né dans le brouhaha, et le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même, on pourrait s'imaginer qu'il va arriver, la naissance se fait dans le temple de Jérusalem, c'est là la place, le successeur de David, hein, et donc Jésus, il est le grand prêtre, le roi, le prophète, il est tout à la fois, et donc on s'imagine que sa place c'est à Jérusalem, et bien non, c'est dans une grotte, il est nu sur la paille. Et ça, c'est très important de toujours comprendre, quand on regarde la fête de Noël, de la regarder toujours en lien avec Pâques. C'est-à-dire que Jésus est né nu sur la paille, il va mourir nu sur le bois de la croix. Hein. La mangeoire, c'est le pain. Bethléem, ça veut dire la ville du pain. Hein. Eh bien, la mangeoire, la crèche, ça veut dire mangeoire. Hein. Donc, il naît dans une mangeoire. Et au Jeudi Saint, il va donner son corps à manger, ça sera le pain eucharistique. Hein. Donc on est vraiment, on comprend très fortement que comme il est arrivé, il est parti, Noël et Pâques, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire l'avènement et le retour vers le Père. Hein. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est pas tant, je pense, le rejet. Alors, on va vous dire, voyez... il n'a pas été accepté à l'autel, donc il a été rejeté, les gens sont méchants, etc. C'est peut-être, bon, on peut insister là-dessus, moi j'insisterai plus sur la discrétion, c'est-à-dire que l'avènement se fait dans la discrétion, c'est, on sonne pas de la trompette, donc elle est à l'écart, les choses importantes, les secrets se font dans la discrétion. Voilà, il faut accueillir les choses. Il faut que les choses mûrissent. Ça, c'est important. Hein, voilà. C'est pour ça qu'il y a un temps de l'avant. Il y a un temps de l'avant pour se préparer à accueillir. C'est voilà, une naissance, ça prend 9 mois. Donc il y a vraiment un cheminement du cœur qui se fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas dans la fanfare. Et les choses, il y a une notion un peu de secret qui est gardée. Voilà. Alors, je me dis, là, en ce temps de l'Avent, nous, en tant que parents, grands-parents, comme c'est important de recentrer cette fête de Noël sur la vraie signification. La vraie signification, c'est la naissance de Jésus. Et donc, c'est pour ça que la crèche, ça a été inventé par Saint François d'Assise, hein, en 1223, dans la ville de Greccio. Et je pense que c'est important d'avoir une crèche chez soi. Hein. Les grands-parents, faites ça pour vos petits-enfants. Hein. Si vos enfants sont pas croyants, ben, au moins quand ils vont chez papy et mamie, ben, il y a une crèche qui est là. Hein. C'est très important de prier devant la crèche, d'avoir une crèche dans sa maison. Et alors moi, quand j'étais petit, chaque enfant, et c'était un mouton, et alors tous les soirs, en faisant la prière, ben, on avançait notre mouton un petit peu, puis quand on arrivait à Noël, on était tout près du berceau. Voilà. Ça, j'aime beaucoup cette chose-là. Par contre, alors, on ne va pas rentrer dans ces histoires moralistes. Ah, t'as fait une bêtise, alors je vais faire reculer ton mouton de deux cases. Vous savez, c'est comme quand on perd je sais pas quoi, au Monopoly, là. Au jeu de loi, on va reculer trois cases. Et puis après, non, là, ça c'est. Jésus, il accueille ses enfants, il veut qu'on se rapproche. Donc avec l'Avent, on se rapproche, on va toujours se rapprocher un peu plus. Alors arrêtons, nous les parents, avec notre religion moraliste en disant si t'es gentil, si t'es gentil, t'auras le droit d'approcher de Jésus. C'est comme si on dit ah oui, si t'es pas gentil, le Père Noël va rien t'apporter, quoi. Enfin, ça, il faut sortir de ça, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Et c'est important aussi dans ce monde qui est le Noël, c'est un Noël Coca-Cola, quoi, un Père Noël Coca-Cola. Il faut que nous, les chrétiens, eh bien, on sorte de ça. Moi, par exemple, si mes enfants me demandent est-ce que le Père Noël existe, ben, je leur dis non, quoi. Enfin, je dis, j'ai pas. On va pas entretenir un mensonge. Est-ce que vous imaginez que il y a des chrétiens qui mentent à leurs enfants sur un sujet qui est le sujet de la nativité de Noël, un sujet important de notre foi. Noël, c'est la venue de Jésus et on est en train de raconter des baratins à nos enfants. Et comment est-ce que vous voulez après que nos enfants aient confiance en nous? Donc ça, ces histoires de mentir sur le Père Noël, enfin ça, c'est quelque chose de terrible.
Hugues, une petite question. Est-ce qu'on sait d'où vient cette tradition de faire des cadeaux à Noël? Parce que on sait que les mages ont apporté des présents, mais ça c'est au moment de l'épiphanie. Il y a aussi Saint Nicolas, dont il me semble qu'il avait reçu des présents et il n'avait rien gardé pour lui, il en avait fait bénéficier des enfants pauvres. Mais finalement, la Sainte Famille, le jour de Noël, ne reçoit pas de présents matériels, mais l'adoration des anges et des bergers.
Alors, tout à fait. Alors, je ne saurais pas répondre sur l'aspect historique, mais c'est bien de poser la question. En réalité, les choses ont bougé selon les pays. Et comme je le disais, la fête, par exemple, de la Nativité était fêtée au 6 janvier, principalement. Il y a eu la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est vraiment une particularité de l'Empire austro-hongrois, enfin toute la partie germanique. Aujourd'hui, les cadeaux de la Saint-Nicolas, c'est plutôt l'Autriche, ces pays-là, l'Allemagne. Donc, les choses ont bougé. Et par exemple, quand on parle du solstice d'hiver, il était au. Il est au 21 décembre, il était mis au 25 décembre comme date, mais d'autres fêtaient la lumière plutôt en février. Et celle-là, on va retrouver la présentation de l'enfant Jésus au temple et on va retrouver la fête de la lumière avec la chandeleur. Donc il y a des choses qui varient et puis après, siècle après siècle, on finit par prendre des décisions et on va caler les choses. Donc ça, c'est juste pour expliquer que les dates, c'est pas quelque chose de dire, bah, tout le monde était d'accord, on a mis plusieurs siècles, Avant, on fêtait par exemple le calendrier commençait à la résurrection du Christ. Après, on a dit, ben non, on va commencer à la naissance. Donc, on a rechangé, on a recalculé. Donc, on est parti du calendrier julien, on est reparti au calendrier grégorien. Donc, c'est pour vous dire que les choses et les dates fluctuent. Et la fête, par exemple, la fête païenne, était un peu une orgie, hein, la fête romaine là, du 25 décembre. C'était très, très, très arrosé, c'était très, 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 très débauche. Et c'est aussi une occasion où l'Église a dit ben, on va transformer une fête païenne en nativité. Mais il était lié à cette notion de faire la fête. Et donc, quand on dit faire la fête, il y a la notion de repas, il y a la notion de cadeau. Alors, évidemment, les cadeaux sont liés à l'aspect des mages, hein, ça c'est évident. Hein, donc, c'est pour ça que je veux dire que c'est pas. Et surtout, il ne faut pas prendre l'évangile d'un sens, hein, au sens littéral. C'est pas comme ça qu'il faut le lire, c'est pas comme ça que les gens l'ont lu. Voilà, en se disant, ben, finalement, c'est un moment important. C'est aussi le fait que on est dans l'hiver. Et l'hiver, c'est un moment où, là, ça y est, on va repartir vers les beaux jours. C'est pour ça que c'était plutôt célébré vers le mois de février, qui était un peu vraiment la sortie de l'hiver. Là, 25 décembre, c'est la théorie, hein, que les jours rallongent, mais enfin, on n'est quand même pas sorti de l'hiver. Donc, l'idée qui est derrière, c'est de dire, eh ben, on a besoin d'une fête pour se réchauffer. Il y avait aussi cette idée-là. Voilà. Donc, c'est ces différents éléments mis ensemble. Maintenant, la tradition précise des cadeaux, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Voilà, je ne suis pas capable. Donc, maintenant, comment aborder cette fête de Noël? Si moi, en préparant cette émission, j'ai donc travaillé un petit peu, il y a certains courants protestants qui disent, alors surtout, pas de sapin, pas de cadeaux, pas de repas trop arrosé, faites quelque chose de très très simple, parce que le sens de Noël, c'est la venue de Jésus, il est né pauvrement, donc voilà. Ça ne me semble pas ajusté. Ça, c'est. Je pense que c'est bien. D'associer la notion de fête à la notion de nativité. Ce qu'il ne faut pas, c'est inverser les choses. Il ne faut pas que la fête devienne plus importante que la nativité elle-même, que le sens de la venue de Jésus. Et c'est pour ça que on ne peut pas être dans le stress des cadeaux. Par exemple, l'histoire des cadeaux, il y en a qui. Ah là, c'est une montagne. Ça peut pas devenir un problème. On ne peut pas. Manquer d'argent en se disant ben, je vais pas pouvoir me chauffer parce qu'il faut que j'achète un cadeau pour je sais pas quoi mon petit-fils voilà on peut pas il faut pas être dans la démesure il faut rester dans la mesure donc on fait un cadeau ce qui est important si on peut faire un petit geste quoi voilà mais qu'on fasse un repas oui c'est bien on n'est pas obligé de boire plus que possible, on n'est pas obligé d'avoir une crise de foi parce qu'on mange et on mange et on mange et on mange, quoi. Voilà, c'est pas ça le sens de Noël. Et je pense que la Sainte Famille, elle nous invite justement à entrer dans le secret. Et c'est pour ça, si vous voulez, que j'aime bien le Gloria des anges. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont un peu tendance à dire, ah mais oui, mais ils étaient dans une étable, ils avaient très froid, ils étaient très pauvres, Jésus était tout nu, il a fallu l'emmailloter parce qu'il allait prendre froid, c'était terrible, c'était la grande souffrance, etc. Bon voilà, ça c'est toujours un peu notre jansénisme, plus je souffre, plus je suis saint, plus je suis pauvre, plus je suis saint, alors, on est toujours dans ce truc-là, donc c'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, c'est de se dire, Jésus est né un peu en dehors de la ville, comme il est mort en dehors de la ville, hein. Il n'est pas né au centre, il est né dans la discrétion et il s'adresse aux gens simples qui sont capables de l'accueillir. Et il y a eu une fête, c'est-à-dire que les anges ont fait la fête, hein, on a chanté. Donc un Noël, si vous voulez, c'est un endroit où eh ben, on va prendre une guitare et on va chanter ensemble. Voilà, c'est ça un Noël. Voilà, et surtout, surtout, je pense que c'est un lieu où que les hommes de bonne volonté se réunissent. Et c'est là où il y a le mot bonne volonté Et aussi, je pense, dans nos familles, je crois que c'est important que ce soit un lieu où on se rassemble, on s'invite les uns les autres, et voilà, et bon, parfois on a des différends avec son frère ou sa sœur, on les calme un peu pour ce temps-là. Moi, là, c'est intéressant cette année, c'est l'année du Covid, c'est l'année du Covid, de la vaccination, etc. Donc moi, j'ai mes enfants ne sont pas, n'habitent pas dans notre pays. Donc peut-être que j'aurai pas tous nos enfants à Noël parce qu'ils vont être bloqués par les confinements ou c'est parce que les gouvernements nous réservent. Bon, ben voilà. Maintenant, s'ils peuvent venir, ils vont venir, hein, on verra. Mais par exemple, moi, dans ma famille, il y a des gens qui sont vaccinés, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, l'idée, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye de monter les uns contre les autres, de dire, les vaccinés, c'est les bons, les non vaccinés, c'est les méchants, et on fait les bons contre les méchants. Enfin, voilà, c'est le genre de choses qu'on entend un peu dans nos bureaux, dans nos entreprises, dans nos familles, quoi. Voilà. C'est la division. Et la division, c'est le diable, c'est Satan, c'est le diviseur, le diabolos. Eh bien, à Noël, eh ben voilà, on arrive à s'accueillir les uns les autres et à se respecter les uns les autres. Voilà, je pense que c'est ça le message. On voit vraiment que l'annonce est faite aux gens qui sont capables de recevoir, d'accueillir cette nativité, d'accueillir Jésus. Voilà, on n'accueille pas Satan, on accueille Jésus. Donc on n'est pas dans la division, on est dans l'unité. Donc moi je pense que ça c'était vraiment un. Il y a quelque chose de paisible dans la crèche. Hein. C'est pour moi, c'est pas d'abord un lieu de souffrance, la crèche. Pour moi, c'est d'abord un lieu paisible, un lieu calme, et que ceux qui ont un cœur calme viennent et se recueillent, et viennent s'agenouiller devant la mangeoire. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire. Je ne sais pas s'il y a des questions,
Oui,
Sandra.
tout à fait. Il y a un
Ah,
message
il y a des
de,
questions.
et
Ben, on
il y a
va
un
donner la
message de
priorité aux
Madeleine.
auditeurs. Il faut me couper, Sandra, parce que moi, je parle, je parle, je parle. Je suis intarissable. Dis-moi.
Alors, Madeleine qui écrit ceci. Bonjour, merci pour votre émission. Peut-on dire que l'on offre des cadeaux pour imiter Dieu qui nous a fait un grand cadeau, donc c'est Jésus. Merci et c'est signé Madeleine.
Oui, en fait, on fait des cadeaux pour faire plaisir aux autres. Voilà. Simplement, il n'y a pas, il n'y a jamais d'amour, il n'y a pas de geste d'amour gratuit fait par les hommes. C'est-à-dire que quand on offre un cadeau, c'est jamais gratuitement. Comme quand je fais un baiser à mon épouse, c'est pas toujours gratuit parce que l'amour gratuit, un désintéressé total, il n'y a que Dieu qui le fait, et notamment quand il donne son fils gratuitement, sans aucune arrière-pensée. Dans nos amours humaines, par exemple, on invite quelqu'un à dîner, on lui fait un cadeau, mais on espère bien qu'il va nous inviter derrière, voilà. Ou par exemple, quand on va faire une offrande à un pauvre, on se dit, eh ben, je suis quand même quelqu'un de très bien, donc on va un peu flatter notre, on va flatter un peu notre ego en disant, je suis quelqu'un de généreux et de bon parce que je donne quelque chose à un pauvre. Donc c'est juste pour vous dire que il y a dans ce qu'on offre toujours une petite part, hein, un 0,001%, un petit peu qui n'est pas désintéressé. Voilà, donc ça, je précise. Ceci étant dit, on a le droit de faire un baiser à son épouse et offrir un cadeau à son petit-fils. C'est très, très bien. Il faut le faire. Mais si vous voulez, c'est pour ça quand on dit parce que Dieu nous fait un cadeau, je fais un cadeau. Oui, c'est exact. On a ce plaisir de faire plaisir à l'autre, voilà, d'une attention à l'autre. Donc, c'est tout à fait juste. Voilà, on n'est pas tout à fait comme Dieu, mais l'idée est là. Donc nous, on fait la maison jolie, hein, on range la maison, on la décore pour qu'elle soit belle, on fait un bon repas, parce que le bon repas, c'est un signe aussi de la fête, et puis on met de la musique, et puis on s'offre des cadeaux. Mais voilà, mais simplement, il faut que le cadeau devienne un geste voilà, qui doit être accueilli. Et ben, si le cadeau, c'est pas exactement ce qui nous plaît, et ben, on l'accueille quand même, et voilà. Mais il faut pas que ça devienne quelque chose de compliqué. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est bien de se faire des cadeaux, tout à fait. Mais nous par exemple, s'il n'y a pas de cadeaux, ben, il n'y aura pas. Voilà, nous, on est 5 enfants, les 2 parents, etc. Donc, c'est compliqué parce qu'il faut que chacun fasse un cadeau à chacun. On ne s'en sort plus, quoi. Ça devient terrible. Donc, nous, on tirait au sort qui offre un cadeau à qui, et puis ça simplifie, quoi. Voilà. Donc, il faut un peu simplifier les choses. Il ne faut pas que les cadeaux deviennent quelque chose de compliqué. Mais c'est bien, c'est l'occasion. C'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui en font. Ceux qui font pas beaucoup de cadeaux durant l'année, ben, au moins c'est une occasion, on leur rappelle, tiens, ça serait bien de faire un cadeau. Donc c'est une occasion. Bon, voilà, faut pas ni les refuser, ni les exiger, il faut être très libre, je pense que c'est important. Y a-t-il une autre question?
Alors, pas d'autres questions,
Non. Alors,
plus une remarque
dis-moi, oui.
également pour les cadeaux, peut-être à l'image de la simplicité de la Sainte Famille, rester simple et ne pas être dans la démesure. J'ai souvenir d'une fête de Noël où il y avait un bébé de quelques mois et on avait commencé pour que les parents puissent aller le coucher avant la fin de la soirée. Il y avait eu distribution des cadeaux du bébé et j'ai été écœurée en fait par le nombre de cadeaux. Un bébé qui comprenait même pas ce que c'était, ce qui lui arrivait. Bon, il souriait parce que le papier cadeau faisait du bruit, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et je me suis dit non, il y a une démesure dans les cadeaux qui est dérangeante.
Oui, moi j'ai vécu au Canada. Au Canada, on fête les 1 an. Quand on fête les 1 an du bébé, c'est une fête énorme. Ça coûte je sais pas combien. On fait venir des il y a des jeux gonflables dans le jardin et tout le monde offre un super cadeau. Ce pauvre gamin, il a 1 an. Il est encore tout petit, petit, petit et reçoit une cinquantaine de cadeaux plus gros les uns que les autres. Enfin bon. Mais les gens offrent quelque chose de gros parce qu'ils veulent montrer qu'ils font un gros cadeau. En fait, ils se font un cadeau à eux-mêmes. Voilà. Donc, je pense que les cadeaux, nous, en tant que chrétiens, il faut que là-dessus, on soit un peu plus, qu'on prenne de la hauteur. Voilà. Je pense que la Sainte Famille nous dit l'important, c'est d'accueillir Jésus. Et puis là-dessus, il faut vraiment qu'on prenne de la hauteur. Si tu me permets, Sandra, je voudrais juste terminer sur un petit témoignage par rapport à la Sainte Famille, parce que je pense qu'il faut qu'on revienne vraiment à l'essentiel, qu'est la crèche, c'est vraiment un lieu où on est appelé à s'agenouiller. Et moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est que, alors je vais dire quelque chose, je sais pas, c'est peut-être pas théologiquement correct, mais c'est pas grave, hein, je le dis quand même. Moi, je suis autant dans l'adoration en étant agenouillé devant une crèche que devant le Saint-Sacrement. Alors bon, là, qui vont pousser des hurlements en disant, mais oui, mais le Saint-Sacrement, c'est Jésus, donc ça a plus de valeur que deux statues en plâtre avec un petit Jésus. Mais c'est l'élan du cœur, c'est ça que je veux expliquer. C'est que moi, quand je suis à genoux devant la crèche, c'est ça qui m'a fait vraiment tomber amoureux de la Sainte Famille, qui m'a vraiment fait entrer dans le mystère de la Sainte Famille, parce qu'on voit ce Jésus qui est Dieu, qui est un tout petit enfant. Alors après, vous pouvez dire, dans le Saint-Sacrement, c'est un petit morceau de pain, mais là, c'est vraiment un tout petit enfant, et on voit toute la kénose, le Dieu qui devient un tout petit enfant fragile, qui a besoin du sein de sa maman pour se nourrir. Et je dirais que pour moi, il y a vraiment une adoration. Et la crèche, c'est un lieu où on se met à genoux. Et voyez les rois mages, tout roi qu'ils étaient, tout savant qu'ils pouvaient être, ils sont à genoux. Eh bien, la crèche, c'est vraiment un lieu où on se met à genoux. Et vraiment, je terminerai là-dessus en disant, c'est pour moi l'école de l'humilité. La Sainte Famille nous apprend l'humilité. Hein, c'est un des messages, on reprendra l'année prochaine, mais l'humilité, pour moi, c'est vraiment, vraiment le grand message de la Sainte Famille. Et donc, j'ai envie de dire ça aux auditeurs. Profitez vraiment de cet avant. Si vous entrez dans une église qui a une jolie crèche, ne faites pas qu'une approche avec les yeux, une approche ah, mais c'est beau parce que c'est une super crèche provençale, etc. Allez-y avec le cœur, mettez-vous à genoux, contemplez cette simplicité. Voilà, ça nous appelle à rentrer dans l'humilité. Voilà, je voudrais terminer sur ce message qui me semble important. Et c'est donc la petite Thérèse qui a pris comme nom Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, parce qu'elle aussi, elle s'est agenouillée devant la crèche, elle a vu cet enfant Jésus, elle a dit « Mon nom de religieuse, ce sera Sainte Thérèse de l'enfant Jésus ». Voilà, donc c'est bien de la crèche qu'est venue cette vocation de Thérèse, qu'on appelle la petite Thérèse, hein, donc l'humilité. Voilà, je voudrais terminer sur ces mots-là. Pour les auditeurs, un bon avant à tous les auditeurs et puis une bonne préparation à la nativité. On est là pour accueillir la naissance du petit enfant Jésus. Voilà Sandra.
Merci beaucoup Hugues, on vous retrouve donc l'année prochaine
pour continuer. Et oui, on se retrouve l'année prochaine, bonne préparative, bon avant et puis à tous les auditeurs et à très bientôt. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.